19h-20h. Et les informés avec Adil Farkan sur Beur FM.
Eh bien bonjour, ravi de vous retrouver. Bonjour, bonsoir. Merci, c'est parti pour les informés. Les informés, vous le savez, commentez, analysez, décryptez l'actualité comme chaque soir. Et vous êtes de plus en plus nombreux. Et je vous remercie infiniment. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Jusqu'à 20h, eh bien, nous allons avoir à la fois des débatteurs qui vont confronter leur point de vue sur trois sujets d'actualité. Le déplacement d'Emmanuel Macron, le chef de l'État, en Ukraine, à Kiev. Pourquoi faire d'ailleurs? Pour quelle négociation? Et est-ce le moment? On posera la question en pleine campagne législative. Les législatives, justement. Est-ce qu'Emmanuel Macron, admettons, pourrait-il un jour dissoudre l'Assemblée nationale juste après le second tour? Est-ce possible? Si jamais ce second tour, justement dimanche prochain, eh bien, la NUPES risque de faire un raz-de-marée. Paraît-il, hein, donc je ne veux pas m'avancer. Autre sujet qui a retenu notre attention, eh bien, c'est celui aussi notamment de la guerre en Ukraine. Emmanuel Macron notamment qui s'engage à faire livrer 6 canons César supplémentaires, un système d'artillerie paraît-il qui est très rare et très recherché, très prisé dans le monde entier, nous allons en parler. Et alors, aussi, à 19h, le rendez-vous qui vous attend, ce sont les invités en pleine campagne législative. Nous recevrons dans l'ordre Daniel Simonet, non, Lamia El Haraj, qui se retrouve face à Daniel Simonet, justement. Elle est avec nous en direct, justement, pour parler de ce second tour. Et ensuite, nous recevrons, eh bien, Nadège Abomangoli, qui sera avec nous, justement, pour parler d'Onne Bondi et Pavillon sous bois. Elle est très nettement en tête, et on va en parler avec elle, justement. On la reçoit en direct, puisqu'elle se retrouve au second tour de ces élections législatives qui s'annoncent extrêmement un enjeu. D'ailleurs, c'est le troisième sujet. Les élections du second tour des législatives, finalement, est-ce un enjeu? Oui, beaucoup le disent. De gros enjeux sont attendus. Voilà, c'est ce qui vous attend. C'est le programme. Et puis vous aussi, au 0153 48 3000, un seul numéro, en toute liberté d'expression. Vous le faites de façon très libre. A tout de suite, c'est parti, et en toute liberté d'expression.
Beur FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Allez, tout de suite, c'est parti avec notre invité. Et je crois, me semble-t-il, on a un peu de mal à retrouver Lamia El Haraj. Ce n'est pas grave, nous allons tout de suite enchaîner avec direction Bondy, Onne, Pavillon sous bois, Nadège, Abomangoli. Tout de suite, c'est parti.
Les informer, le face-à-face.
Le face-à-face en attendant justement de retrouver nos invités qui sont avec nous, qui continuent d'aller faire du porte-à-porte, paraît-il. Allez, messieurs, tout de suite, que des messieurs d'ailleurs. Amel Friad, bonjour.
Bonjour, comment allez-vous?
Comment ça va bien?
Mais très bien, très bien.
Bon, quoi de neuf?
Bah, très bien, comme d'habitude, hein, sur Beur FM.
Bon.
Chaque semaine. Très content dans les médias anglais.
Rafik Temgari, bonjour.
Bonjour Adil.
Comment ça va?
Bah super, chaudement, avec un peu une petite pensée aux travailleurs de l'extrême. Il fait très chaud, il va faire encore plus chaud. Et surtout à ceux qui vont passer l'épreuve du bac. Donc ça, c'est une grosse pensée
bon
pour eux. Tout à fait.
Absolument, élu sur la ville de Rueil-Malmaison. À vos côtés, Ménad Ouchenir, lui, justement, ancien élu de René-sous-Bois. Qui est le consultant numérique. Bonjour, mon cher Ménad.
Bonjour Adil, bonjour à tous.
Et comment ça va?
Ça va, merci. Une pensée, on l'avait dit, aux travailleurs et aux étudiants, mais aussi, je pense, aux administrations et au personnel des mairies qui travaillent pour organiser le second tour du scrutin ce dimanche, qui est dans
le dur. On a tendance à les oublier. C'est ça?
Sans doute.
Sans doute.
En tout cas, ça fait du bien de rappeler qu'ils sont là.
Ça faisait longtemps d'ailleurs, vous n'étiez pas venu sur le plateau.
Eh oui.
Qu'est-ce qui s'est passé?
C'était beaucoup d'activités. Beaucoup d'activités. Et puis, voilà, j'attendais effectivement. Félicitations, je vous remercie.
Bon. Allez, tout de suite, l'invité du jour. Messieurs, on se retrouve dans une poignée de minutes justement pour commenter l'actualité et confronter votre point de vue. C'est parti, direction donc Nadège Abomangoli, justement, qui est notre invité.
Les informés, l'interview.
Bonjour Nadège Abomangoli, comment ça va?
Bonjour.
Bonjour. Dans quel état d'esprit vous êtes d'ailleurs très nettement Alors, parlons de votre circonscription. Vous êtes en ballotage, vous-même, avec Alain Ramadier. Vous avez récolté 39,71%, me semble-t-il, hein, pour la NUPES.
C'est ça. Ouais,
pour la juste fête. Derrière vous, Alain Ramadier avec 20,07. Quand on a 39,71, on est dans quel état d'esprit, ma chère Nadège Abou-Mongolie?
On est dans un état d'esprit dans lequel on se dit qu'il ne faut pas du tout relâcher ses efforts et jeter toutes ses forces dans la bataille pour confirmer le score du premier tour. C'est jamais gagné. Et surtout qu'on a ici des gens qui ont décidé de faire une campagne de second tour qui n'est pas au niveau de l'enjeu, de l'enjeu politique du moment. Nous, on continue sur nos thèmes, on continue à faire du fond. Eux sont plutôt dans une campagne de dénigrement à base de wokisme, indigénisme, extrême gauche.
Même si vous êtes en ballotage, mais en ballotage favorable pour vous concernant.
Ballotage favorable, mais en fait, il ne faut rien lâcher. Les victoires ne sont jamais écrites d'avance. On a une équipe motivée parce qu'en fait, en plus, en Seine-Saint-Denis-Haut-Dan, ma circonscription, on est présent dans tous les seconds tours. On peut faire le grand chelem pour la NUPES et c'est ça qui nous motive.
Vous incarnez la 10e circonscription de la Seine-Saint-Denis qui englobe Aulnay, Bondy, Pavillon-sous-Bois.
C'est ça, et Bondy Sud-Est plus exactement.
Vous dites quoi à chacun et chacune quand vous les croisez, justement, dans les rues de la 10e circonscription? Comment les convaincre, justement, pour aller voter pour dimanche prochain? Parce qu'il y a eu un grand fort taux d'abstention, Nadège Abou-Mongolie.
Il y a eu un fort taux d'abstention, déjà, traditionnellement, en Seine-Saint-Denis, on est toujours à des taux d'abstention un peu plus élevés qu'ailleurs en France. Alors, cette fois-ci, on a un taux d'abstention qui a un petit peu baissé, hein, de 3 points sur le département, et y compris ici sur la circonscription. En fait, on est convaincu que voter pour les législatives, c'est voter pour des grandes lois sociales. Et les grandes lois sociales que nous, on a dans notre programme, c'est la retraite à 60 ans, c'est des lois d'urgence pour le pouvoir d'achat, c'est des lois de société avec la planification écologique. La planification écologique qui a des conséquences économiques puisque ça crée des emplois, ça change de modèle, ça nous permet de respirer. Et en fait, ils sont assez sensibles à ça. Par ailleurs, le message de premier tour des présidentielles est bien passé, puisque oui, ce sont les habitants eux-mêmes qui nous parlent de la retraite à 60 ans, du SMIC. Ils savent qu'on a des marqueurs. En revanche, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils sont déçus par le premier tour, par le fait que Jean-Luc Mélenchon n'ait pas été au second tour. Et nous, ce qu'on leur explique, c'est que c'est le troisième tour et que Jean-Luc Mélenchon, s'il est premier ministre, appliquera son programme. C'est ça vraiment qu'on martèle.
Justement, parlons-en, Nadège Abou-Mongolie. Si vous êtes élu dimanche prochain, comment vous voyez votre combat au sein de l'hémicycle de l'Assemblée nationale?
Alors, moi, mon combat au sein de l'hémicycle de l'Assemblée nationale, d'abord, ça va devoir être la composition du gouvernement. Et moi, j'espère qu'on va gagner.
Ah, vous y croyez?
Oui, on y croit, en fait. Moi, après, vu l'âge que j'ai, hein, je ne vais pas cacher, j'ai 46 ans. J'ai déjà connu, dans ma jeunesse, trois cohabitations. Donc, je sais que c'est possible hein, d'arriver à la cohabitation. Si on a 289 députés, on a la majorité. C'est possible, on est quand même dans 403 second tours, dans des configurations totalement différentes. Nul ne peut prévoir la composition de l'Assemblée nationale le 20 juin. Je rappelle que les projections en 2017 donnaient 400 et quelques députés à Macron. Il en avait beaucoup moins. Au présidentiel, on nous donnait à 17-18% le vendredi soir. Le dimanche, on finit à 22%. Donc, il y a une dynamique qui prend quand même. En tout cas, je trouve qu'il y a une bonne campagne nationale, à la fois de Jean-Luc Mélenchon, nos cadres nationaux, de nos orateurs nationaux qui expliquent les enjeux. Et donc, nous aussi, on est localement pris dans cette...
Justement, localement, la 10e circonscription de la Seine-Saint-Denis attendent beaucoup, justement, de leurs députés. Vous leur dites quoi s'ils vous écoutent? Et ils vous écoutent d'ailleurs.
Je leur dis d'abord, je serai, comme je suis aujourd'hui, une militante de terrain. Donc, je serai une députée militante. Je serai une députée qui sera à l'écoute, comme elle a toujours été, et je serai une députée insoumise. Ça veut dire qu'on est à la France insoumise, on est à la NUPES, mais on reste insoumis. À savoir que c'est à nous aussi d'être la vigie, la veille des engagements à tenir. Moi, j'ai une histoire militante qui fait que quand je ne m'y retrouve pas, je bataille pour faire savoir mes idées et mes engagements. Et si ça ne va pas, je le dis. Je le dis, je le fais. On a aussi ici beaucoup d'attentes par rapport aux habitants qui nous expliquent que le député sortant ne l'a pas beaucoup vu, ou on l'a vu seulement dans une partie de la ville, ou on l'a vu dans des fonctions qui ne sont pas forcément celles d'un député, mais plutôt celles d'un, on va dire, d'un super élu local. Et par ailleurs, c'est un vrai problème politique aussi aujourd'hui de marqueur, c'est-à-dire que quand on est député LR, à quoi on sert pour y en avoir plus ?
Voilà, en fait, j'ai vu justement, vous avez tweeté, vous, Nadège, tweeté, vous avez parlé de racisme, justement, une campagne facho de votre adversaire Alain Ramadier. Qu'est-ce que vous vouliez dire ? C'est quoi cette fin de campagne ? Elle se transforme en caricature ?
Elle se transforme en caricature, elle se transforme, premièrement, dans un référendum pour ou contre Mélenchon, ce qui est assez audacieux dans une ville qui, au présidentiel, a voté à 49% pour lui. D'accord ? Premièrement. Deuxièmement, elle se transforme en référendum anti la candidate de Mélenchon parce que nous, on a un projet, parce qu'elle n'a rien à dire. Et troisièmement, elle se transforme en une campagne facho, mais même caricaturale. C'est-à-dire que parfois, ça porte même un sourire. On a du wokiste, on a du indigéniste, on a du anti-flic, on a du extrême gauche. Enfin, on a vraiment tous les poncifs pour essayer de rappeler les voix d'extrême droite et donner des signaux qu'il n'a pas donné d'ailleurs dans cette campagne de premier tour, parce que là, on a une droite aux abois.
Merci Nadège d'avoir été avec nous. Je le rappelle, Nadège Abomogoli qui incarnait donc la Seine-Saint-Denis, la 10e circonscription de la Seine-Saint-Denis. Merci d'avoir été avec nous, Nadège.
Merci à vous.
Et je le rappelle donc, vous avez récolté 39,71% des voix et vous retrouvez donc dimanche prochain face à Alain Ramadier. Merci à vous, Nadège. Bon courage. Tout de suite, autre invité, vous savez, c'est Lamia El Haradj. Bonjour, bonsoir, Lamia El Haradj.
Bonjour, bonsoir, Adil.
Merci d'être avec nous. On s'est un peu manqué hier parce qu'effectivement, on s'est retrouvé face à un gros bug technique qui nous a empêché d'ailleurs de se retrouver en direct. Et évidemment, je vous reçois et c'est un peu normal que vous soyez sur notre antenne. Dites-moi tout d'abord, vous incarnez la 15e circonscription de Paris 20. Vous êtes d'ailleurs, vous faites beaucoup parler de vous, Lamia El Haradj, parce que vous êtes députée sortante, mais surtout vous êtes face à Daniel Simonet et un affrontement qui risque d'être redoutable dimanche prochain dans la 15e circo. Pour quelle raison d'ailleurs il est redoutable ?
Il est redoutable parce qu'il s'est déjà produit l'année dernière. Donc il est à la fois redoutable, mais il est surtout regrettable. Puisque l'année dernière, moi j'ai été élue députée dans le cadre d'une élection législative partielle sur cette même circonscription. Et figurez-vous qu'il y a un an, j'ai battu Daniel Simonet. Donc Daniel Simonet a perdu face à moi. Et quand il a été question des investitures de la NUPES, ou plutôt la France Insoumise, a décidé d'investir celle qui a été battue l'année dernière en lieu et place de celle qui a été élue, à savoir moi, Lamia El Haradj. C'est un signal désastreux qui a envoyé. C'est un signal d'injustice fondamentale dans le cadre de cet accord qui avait plutôt vocation à rassembler les forces politiques. Et c'est un signal désastreux qui a envoyé aux électeurs qui ont voté il y a un an et qui nous ont fait confiance. Donc c'est un jeu d'appareil, de copinage, de je ne sais pas quoi.
Et ça se transforme en bataille.
Investi. Et puis ça se transforme en bataille parce que j'ai refusé de me soumettre, j'ai refusé de ne pas présenter ma candidature en cohérence avec l'engagement que j'ai pris vis-à-vis des électeurs, des projets qu'on a commencé à travailler et en respect surtout de votes qu'ils ont exprimés il y a un an.
Effectivement, comment récupérer justement ce second tour et comment allez-vous mener justement votre fil conducteur pour aller chercher tous celles et ceux qui n'ont pas été votés dimanche dernier ?
Déjà, expliquer au maximum, parce qu'il y a beaucoup d'électeurs qui ont voté sur la base, je dirais, de la marque, quoi. Ils ont voté la NUPES sans regarder concrètement ce qui se passait sur la circonscription.
Ah, parce que vous avez totalisé, vous, 17,87 des voix.
Hein. C'est ça, exactement.
Face à Simonet qui s'est retrouvé à 47.
Exactement, voilà. Donc on a un écart notable, comme vous pouvez le constater.
Oui.
Toutefois, je vois bien que, un, il y a un défaut d'information de la part vis-à-vis d'un grand nombre d'électeurs. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire toute cette semaine en allant à leur rencontre via différents types d'actions. Deuxièmement, on essaie aussi de mobiliser les abstentionnistes. seul un électeur sur deux s'est déplacé sur ma circonscription. C'est absolument ubuesque, quoi. Donc, si les abstentionnistes se mobilisent, le corps électoral se modifie, et à partir de là, il y a aussi, voilà.
Vous y croyez, Lamia El Haradj? Vous pensez que vous pouvez combler ce fossé, cet écart de, des voix? Vous, vous êtes convaincu, justement, que c'est possible d'aller chercher, arracher celles et ceux qui n'ont pas rempli leur devoir civique?
Oui, bien sûr que je le crois. Vous savez, moi, je suis une femme de bataille. Ça vous aura pas échappé.
Oui.
Donc, je crois qu'on ne perd que les batailles qu'on ne mène pas. Donc, évidemment que j'y crois et que je suis mobilisée avec l'ensemble de mon équipe, avec par ailleurs plein de citoyennes et de citoyens qui sont absolument dégoûtés de la situation et qui nous proposent de nous aider, qui se mobilisent à nos côtés. Donc après, dans l'hypothèse où je ne gagne pas, quoi qu'il arrive, on a écrit aujourd'hui aussi la première page de l'histoire d'après. Parce que ça veut dire qu'il y a un espace politique qui existe, il y a une possibilité pour cette gauche que j'ai envie d'incarner, qui ne se revendique évidemment pas de Macron et qui ne, pour autant ne s'assimile pas à Mélenchon, et qui a vocation à se reconstruire. Et c'est ce message-là aussi qu'on envoie aux gens.
Deux femmes qui s'affrontent aujourd'hui pour ce second tour, justement, Lamia El Haradj, j'imagine que c'est une revanche, vous l'espérez dimanche prochain. La victoire, vous voulez, vous voulez aller la chercher comment? Sous quelle forme, Lamia El Haradj?
Comment ça, sous la seule forme que je connais, c'est-à-dire faire plus de 50% et de redevenir la députée qui a été élue il y a un an sur cette même circonscription et battre à nouveau Daniel Simonet.
Vous m'avez l'air déterminé.
Évidemment que je le suis.
Vous dites quoi à celles et ceux qui vous écoutent aujourd'hui?
Celles et ceux qui nous écoutent, je leur dis plusieurs choses. D'une part, si vous n'êtes pas allé voter dimanche dernier, allez-y ce dimanche, c'est important. Ne laissez pas les autres décider pour vous. Si les abstentionnistes se mobilisent, vous avez la possibilité de renverser la table et de changer la donne sur cette circonscription. Ça, c'est mon premier message. Le deuxième message, c'est que ce qui s'est passé sur cette circonscription est absolument inacceptable.
Oui.
Là où cette union, la NUPES, que je soutiens par ailleurs, était censée apporter de la clarté sur cette circonscription, elle a écrasé le choix des électeurs, écrasé la cohérence, écrasé le respect dû aux personnes, et
oui,
à moi en l'occurrence, au profit d'un jeu de copinage pour permettre à celle qui a été battue il y a un an,
oui,
de remplacer celle qui a été élue. Et ça, je crois que personne ne peut l'accepter et que c'est important de se mobiliser. Et enfin, aller choisir sur cette circonscription, il n'y a pas de danger de droite ou d'extrême droite. Ce sont deux candidates qui s'affrontent, une de gauche, une d'extrême gauche, qui ont deux visions de ce que doit être la politique et de ce que doit être la chose publique. Donc choisissez la gauche que vous aimez et votez la mienne.
Merci Lamia El Haradj, vous êtes donc candidate députée sortante de la 15e circonscription de Paris 20. Merci Lamia El Haradj et bon courage pour dimanche prochain.
Merci, à bientôt.
19h17, on lance la première tranche pub et on se retrouve tout de suite après, justement avec nos débatteurs influenceurs, et on va aller direction l'Ukraine, Kiev. Justement, on va commenter le déplacement d'Emmanuel Macron. Était-ce le moment, chers amis, clochette? Oh, oh, ben oui. Ben on va répondre à cette question, justement. A tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. Beur FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
C'est parti, le débat, le face-à-face.
Les informés, le face-à-face. Le face-à-face.
Ménad Ouchenir, comment ça va?
Ça va très bien, Adil, merci.
Allez, c'est parti, messieurs, très bien, très bien. Avec notamment Amit Chriette, mais également aussi Rafik, Temgari, Kétan, qui sont avec nous. C'est parti, messieurs, nous allons lancer ce premier sujet sans tarder avec le déplacement d'Emmanuel Macron en Ukraine, à Kiev. Justement, il rencontre le Zelensky. Mais surtout, était-ce le moment pour Emmanuel Macron d'aller en Ukraine alors qu'on est en plein second tour? Rafik, justement, Temgari.
Oui, moi je pense que, encore une fois, c'est toujours important de faire jouer la diplomatie. Donc, à noter qu'il n'est pas parti tout seul. Donc, s'il était tout seul, je pourrais dire que oui, peut-être. Mais il est parti avec l'Allemagne, avec la Roumanie et avec l'Italie. Donc, à ce que je sache, il n'y a pas d'élection en Allemagne, il n'y a pas d'élection en Italie. Et aujourd'hui, ça fait 113 jours de guerre en Ukraine. Et ça, c'est très, très, très important. Hier, le président ukrainien...
Sauf que l'ensemble est fragilisé, justement, en plein second tour.
Je dirais que aujourd'hui, on parle vraiment d'une détresse, 100 soldats de perte par jour, et ça, c'est très 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 important. Donc, je pense que aujourd'hui, il faudrait faire bouger les choses. Il faudrait que un poids comme les présidents.
Le déplacement, fallait le maintenir.
Tout à fait, tout à fait. Moi, je confirme qu'il faut vraiment tout faire, les efforts pour arrêter cette guerre-là. Et je pense qu'il a fait un signe assez important, que ce soit pour la Russie, que ce soit pour l'Ukraine.
Eh ben justement, faisons un tour, Ménade.
Je comprends même pas qu'on se pose la question de son déplacement. C'est le président de la République, c'est le président du Conseil de l'Union européenne. Il y est allé effectivement entouré, comme l'a dit Rafik. Et c'est jamais le moment de ne pas y aller. Il faut y aller, il faut discuter. Il a un dialogue continu avec Vladimir Poutine. On lui a reproché d'ailleurs, parce qu'il voulait ne pas humilier la Russie et le peuple russe. Il a un dialogue régulier avec le président ukrainien, Zelensky. Pourquoi on se demande s'il devait y aller ou pas, élection ou pas élection? Il va envoyer qui? S'il n'était pas allé, on aurait envoyé qui? On aurait fait quoi? Qu'est-ce qu'il fallait faire? C'est facile de taper dessus. Mais dans les faits, moi, je ne comprends même pas qu'on se pose la question, Adil.
Surtout qu'en diplomatie, on parle d'égal à égal, de président à président. Et ça, c'est très important.
Envoyer un second couteau ou je ne sais qui.
Allons voir si Amit Chriette partage votre point de vue. Amit Chriette.
Écoutez, c'est un camouflet pour le président de la République. Il est parti en retard, à la dernière minute. Il aurait dû le faire depuis belle lurette. Pourquoi n'a-t-il pas rencontré Zelensky? Pourquoi? Parce que tout simplement, aujourd'hui, on sait très bien que le renseignement américain a donné le feu vert à Paris. On voit bien que l'Union européenne n'est pas indépendante. Et le renseignement américain dit quoi? Très simple. Il suffit d'aller voir sur les rapports de la CIA qui sont sortis, qui sont publics. Disent que cette guerre ne pourra pas être gagnée par l'armée ukrainienne. Tout simplement.
Mais disait aussi qu'en 96 heures, l'Ukraine serait pliée. Et ce n'est pas le cas.
Bah, je ne sais pas, moi je n'ai pas lu ça.
Ah bah si, si, si. Je peux dire qu'il disait qu'en 96 heures, l'Ukraine peut perdre. Et ce n'est pas le cas. C'est 113 jours aujourd'hui.
En tout cas, aujourd'hui, ceux qui arment l'Ukraine sont les États-Unis, majoritaires. L'Union européenne, aujourd'hui, on voit qu'elle est en faillite politique. Il n'y a pas, si vous voulez, de volonté politique du président de la République. Et c'est une fuite en avant parce qu'on sait très bien que les élections législatives, pour revenir et mettre un parallèle sur votre question-là, c'est très bien que la personnification du candidat est importante sur les élections législatives. Les élections législatives ont cette particularité-là. C'est ce parallélisme, ce lien avec le président de la, avec le candidat président de la République ou candidat qui représente son parti politique, la figure. Emblématique. C'est cette partie.
Certains d'ailleurs regrettent effectivement beaucoup.
C'est la raison pour laquelle que les candidats d'En Marche demandent, supplient à Emmanuel Macron. Mais Emmanuel Macron fait du trumpisme, pour reprendre une formule de Jean-Luc Mélenchon, sur son tarmac et sur son avion. Et j'espère qu'il ne le fera pas avec les élections législatives. Voilà.
Il ne l'a pas fait. À ce que je sache, il n'a pas fait de déclaration lors des.
J'espère qu'il ne va pas, suivre les pas de Trump. Si ça vous rappelle
ça me rappelle, mais justement Ménade Duchesnier,
moi aussi, et une fois n'est pas coutume, Adil, je vais reprendre aussi Jean-Luc Mélenchon qui a fait aussi une déclaration ce matin disant qu'il ne s'agissait pas de taper sur le président qui était actuellement en visite dans une zone de guerre, en tout cas c'était le cas encore ce matin, et en l'occurrence sur ce coup-là, je peux vous dire, Jean-Luc Mélenchon m'a positivement étonné, puisque contrairement à d'autres, il n'était pas là à taper sur le chef de l'État qui vient d'être fraîchement réélu et qui était dans ses fonctions absolues. Donc, soyons républicains sur ce coup-là. Qui est le second tour des législatives? Sur le plan géopolitique, législative française, pardon, mais on s'en fout.
Ouais, c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon, il a fait une déclaration assez modérée, contrairement à l'extrême droite, où là, Marine Absolument. Le Pen allait vraiment taper sur le président de la République. Mais Jean-Luc Mélenchon est beaucoup moins modéré que le supporter de Jean-Luc Mélenchon.
Écoutez, aujourd'hui, on voit très bien que le premier opposant face à Emmanuel Macron, qui aujourd'hui est en train de citer Jean-Luc Mélenchon, qui attaque Jean-Luc Mélenchon, c'est bien le président de la République, lorsqu'il va à Clichy, à Clichy-sous-Bois, lorsqu'il parle de sport, toutes les visites d'Emmanuel Macron dans les quartiers populaires et dans les banlieues concernent uniquement la question du sport, ou du dance-ball, ou de la samba.
Qu'est-ce que vous voulez nous dire par là?
Excusez-moi, on est typiquement dans des stéréotypes. Aujourd'hui, citez-moi les gens de la diversité qui sont ambassadeurs au Quai d'Orsay. Ils sont où? Les préfets, ils sont où? Il n'y en a pas.
Qu'est-ce qu'a fait Emmanuel Macron sur la
méritocratie? Attendez, laissez-moi terminer. Qu'est-ce qu'a fait Emmanuel Macron sur la méritocratie? Que dalle. Il est où aujourd'hui le ministère des villes? Que dalle. Donc aujourd'hui, il y a un bilan qui est catastrophique. La NUPES aujourd'hui arrive en tête, même avec le tripatouillage du ministère de l'Intérieur, et on voit bien la tentation de M. Darmanin. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a une volonté, il y a une dynamique sur le terrain qui est là, et Jean-Luc Mélenchon incarne cette dynamique avec son slogan sur le troisième tour. C'est un coup de génie politique qu'il a eu. Et je crois qu'aujourd'hui, même les adversaires de Jean-Luc Mélenchon le disent à juste titre.
Alors, il faut savoir.
Alors, Rafik, et ensuite, on retrouve le quoi
désolé,
de neuf.
Je suis désolé.
Non, mais il faut dire que le président de la République lutte contre les extrémistes. Et Mélenchon, je veux dire, son parti, c'est considéré comme un parti d'extrême gauche.
Ah bon,
c'est pour cette raison-là. C'est pour cette raison-là que aujourd'hui.
De mosquée, alors, c'est pas extrémiste. La loi sur la sécurité globale, c'est pas extrémiste.
Je peux continuer.
Clochette, allez, clochette, il a droit à une clochette. Laissez-le finir, Amine Triette.
Vous le mettez où sur le cursus? Vous le mettez où? Bah, comme vous dites aussi que Marie. Bah non, du tout. Mais c'est ce que je dis. Je dis un parti d'extrême gauche ou un parti d'extrême droite, c'est un danger.
Ne nous mettons pas en retard. S'il vous plaît, messieurs, juste ne nous mettons pas en retard. Il est 19h32. Le Quoi de Neuf, c'est parti.
Les informés, le Quoi de Neuf.
Le Quoi de Neuf, c'est avec le docteur Majid Soussine. Exceptionnellement, hier, nous étions en bug technique et on va faire une séance de rattrapage. Bonjour, docteur Majid Soussine.
Bonjour, Adil. Je suis content que vous ayez payé votre facture d'électricité.
C'est ça. Ça y est, c'est fait. On l'a acté, elle a été validée. Vous pouvez l'être, vous avez raison. À vous la parole, on vous écoute pour votre billet d'humeur, ça démarre fort.
Écoutez mon cher Adil, il fait chaud et ce n'est rien de le dire. D'ailleurs, je vous trouve assez mignon en short Marcel. Mais je pense, comme beaucoup d'auditeurs, que ce n'est pas une tenue pour animer une émission aussi sérieuse que la vôtre.
C'est génial, punaise.
En tout cas, il fait chaud aussi et surtout pour quelques-uns qui vont devoir se trouver une nouvelle activité pour se recaser. Je parle bien sûr de certains ministres et qui sait de la première d'entre elles qui, si elle échoue au second tour des législatives, vont devoir demander conseil à Marlène Schiappa qui paraît-il...
Oh, clochette, vous êtes malade, ça va pas ou quoi?
Qui paraît-il a pris un poste de conseillère à Pôle emploi. Eh oui, Adil.
Clochette, allez. C'est vache.
Eh oui, Adil. Depuis le non-cumul des mandats et la jurisprudence Fillon, la politique et le métier de politique n'offrent plus de droit à l'erreur. Dans la politique de papa, le ministre qui perdait son marocain et non pas sa marocaine redevenait...
Mais vous avez craqué, mon cher docteur.
C'est la chaleur.
C'est la chaleur. Heureusement que vous êtes corrosif, hein.
Oui, donc celui qui perdait son marocain redevenait maire, président de conseil général ou président de conseil régional ou toutes ses fonctions à la fois. Eh bien non, aujourd'hui c'est le chômage ou alors... animateur sur C8, Roselyne Bachelot, chroniqueur sur BFM TV, Manuel Valls, rentier d'un conseil d'administration, Fillon, président d'une ONG, Duflo, etc. Il fait chaud et ce n'est rien de le dire. Marine Le Pen va enfin avoir son groupe à l'Assemblée et va donc laisser la présidence du mouvement à Jordan Bardella, qui a été plus malin que Florian Philippot, qui végète sur YouTube.
C'est ça.
Mélenchon va enfin, maintenant qu'il n'a plus de mandat, partir faire une croisière au Venezuela et se présenter peut-être à l'élection présidentielle au Brésil à la place de Lula, dont il ferait à défaut un bon premier ministre après 3 ou 4 cours de portugais. Ouais. À moins qu'il ne veuille devenir recteur de la mosquée de Marseille. Blanquer, quant à lui, va enfin pouvoir ouvrir ce club à Ibiza dont il rêvait depuis si longtemps, où, qui sait, il pourra peut-être embaucher Amélie de Montchalin et Barbara Pompili. Quant au président, je suis très très inquiet. Il a pris l'avion pour la Roumanie et j'ai pas bien compris pourquoi. Est-ce pour prendre des cours d'accordéon? Peut-être va-t-il prendre des cours d'accordéon et préparer sa reconversion dans 5 ans. Bonjour monsieur, une petite pièce de la musique, s'il vous plaît.
C'est pas mal.
Il a pris quoi comme substance aujourd'hui, notre docteur?
Non, la chaleur.
C'est la chaleur qui fait ça, d'accord.
Ou alors, pire encore, est-il victime de la tentation de Baden-Baden, comme le général de Gaulle qui, en 1968, avait disparu sans que l'on sache vraiment s'il avait vraiment envisagé la démission? Non, président, écoutez, ne vous laissez pas aller. Ni moi, ni Adil ne voulons partir à la retraite à 60 ans. Nous avons tellement peur de nous retrouver dans un terrible face-à-face avec nos épouses respectives que nous préférons travailler jusqu'à 65, voire 70
Allez-y,
ans.
Allez-y, vous avez raison, oui.
Et puis sans vous, président, on va s'ennuyer. Plus de défilés dans les roues, plus de grèves, plus de passes sanitaires, plus de ces magistrales adresses à la nation. Vous nous manqueriez tant. Alors j'ai envie de vous dire, comme Renaud, on s'entend, et c'est là où je commence à chanter. Allez, déconne pas, Manu, un ministre qui s'en va, c'est des copains qui reviennent. Manu, rentre chez toi, il y a des larmes dans ta bière. Je croyais pas qu'un mec en costume, ça pouvait chialer. Je pensais pas que ça pouvait t'arriver. Allez, déconne pas, Manu. Et voilà.
Non, mais franchement, on l'applaudit.
Parfois, bravo, bravo. Très bon, vraiment.
Double bravo, quelle plume, hein. Ce docteur Majid Soussine a une belle plume. Hein.
Super.
Ouais, un corrosif et tout dans le ton.
On prend un plaisir à l'écouter.
Mais on prend toujours un plaisir à l'écouter, c'est vrai. Hein.
Eh oui.
Vous savez qu'il y a beaucoup de fans. Hein.
Ah bah, j'en fais partie.
Ah, vous en faites partie, Rafik.
Bah,
vous avez dit, je ne le savais même pas. Il y a un débatteur, Rafik Temgari, qui est un élu de Royal Mamaison. Il est fan de vous, docteur Majid Soussine.
Ah bah, je le salue.
Saluez-le chaleureusement, quand même.
Mes hommages.
Très chaleureusement, mais vous ne trouvez pas qu'il fait déjà assez
Il fait très
chaud.
Regardez la punchline qui nous a mis dans la gueule. Pour être trivial, il est bon. Merci, docteur Majid Soussine.
Est-ce que vous me permettez une petite annonce?
Oui, faites une dédicace, allez-y.
C'est le 21e anniversaire de ma fille Imen aujourd'hui.
Ah, Imen.
Vous êtes un excellent
Imen, est-ce qu'elle nous écoute, Imen, d'abord?
Ben, je lui ai demandé de nous écouter. J'espère qu'elle le fait au moins après tout ce que j'ai fait.
Non, mais si elle ne nous écoute pas, on ne fait pas. Mais si elle nous écoute, on peut lui dire joyeux anniversaire, Imen. Joyeux anniversaire, Imen. Imen, respect, heureux anniversaire et surtout profites-en et fais tomber ton père parce que justement, va le casquer. Vas-y, va, vas-y, fonce. Vite les, fais les poches.
Ça doit être quelque chose de très bien pour ça.
Ouais, bah justement, qu'elle continue alors, qu'elle continue. À la raison, bon anniversaire à votre charmante fille, mon cher docteur Majid Soussine. À jeudi prochain avec autant de plaisir.
À mercredi même, si vous payez l'électricité la semaine prochaine.
Mercredi.
Si vous payez l'électricité ou vous pédalez avec le vélo, je serai là mercredi.
Non, ça y est, je pédale et je paye. Allez, à tout de suite, on lance la pub et on se retrouve justement pour parler de l'Assemblée nationale. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h. Les informés avec Adil Farkan.
Les informés avec Amit Chriet, avec notamment Rafik Temgari et notamment avec Ménad Ouchenir. Justement, messieurs, l'Ukraine, Emmanuel Macron à Kiev, c'est aussi, vous savez quoi, ces quatre dirigeants qui dialoguent en permanence avec une nouvelle phase qui s'ouvre. Mais surtout, messieurs, n'est-ce pas aussi d'accélérer la candidature de l'Ukraine, en dehors évidemment du soutien militaire, cette candidature de l'Ukraine au sein de l'Union européenne? Rafik Temgari.
Oui, moi je pense que cette candidature va prendre plusieurs... Le processus prend plusieurs années. Je ne pense pas que ça va se faire du jour au lendemain. Après, moi, ce que je ne comprends pas dans cette histoire-là, c'est qu'il y a d'autres pays qui ont déjà demandé leur adhésion. En l'occurrence, la Moldavie, la Géorgie et la Bosnie. Et qu'à ce jour, il n'y a toujours pas de réponse de l'Europe. N'en parlons pas de l'exemple de la Turquie où ils sont restés plusieurs années et qu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de réponse claire de l'Europe. Donc, je pense que c'est un effet d'annonce lors du déplacement du président de la République et que ça risque de prendre énormément d'années. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Et puis, ils trouveront peut-être, comme on dit, une petite sortie de garage pour pouvoir dire que...
Faisons un tour de table avant d'aborder la question de l'Assemblée nationale et le nouveau visage qui nous attend dimanche prochain. Messieurs, Ménad Ouchenir.
Il y a des questions au moment de la communauté politique européenne. C'était une espèce de sas qui permettait à des pays en instance d'adhésion, en tout cas qui avaient exprimé la volonté d'adhésion, de pouvoir aussi faire partie d'un début de communauté. Je trouve que c'était une bonne solution aussi, cette transition, parce que ça ne doit pas se faire à la légère. On a bien vu les conséquences avec le Brexit, qui a été catastrophique pour tout le monde finalement. Et d'avoir ce sas, donc cette communauté politique européenne, pour moi était une bonne chose. Ça permettait aussi de s'assurer que sur le long terme, le peuple, et pas uniquement ses dirigeants, parce qu'il faut quand même distinguer les deux, était aussi dans la volonté d'intégrer l'Europe, comme on l'avait fait pour les pays baltes à l'époque et autres. Donc c'était pour moi la bonne solution. Maintenant, il y a un soutien à une candidature, pourquoi pas? Et pourquoi pas aussi, je ne sais pas si vous avez la grande, justement, d'avoir un canal un peu plus rapide, puisque c'est un pays qui est attaqué. Et peut-être qu'on pourrait, à ce moment-là,
accélérer,
réfléchir au niveau européen. C'est-à-dire, quand un pays est attaqué et qu'il souhaite rejoindre l'UE, eh bien, il existerait une procédure spéciale.
C'est aussi l'objet. L'objet du déplacement d'Emmanuel Macron, d'accélérer le process, justement, hein, avec les trois autres dirigeants. Amin Chriad, rapidement, avant de passer au second sujet qui nous attend.
Écoutez, rapidement, moi je crois que...
Sur le plan géopolitique, alors.
D'abord, sur le plan géopolitique, il faut se poser la question, est-ce que les électeurs, effectivement, européens, puissent décider sur l'adhésion de l'Ukraine? Oui ou non? Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de démocratie. L'Union européenne a un problème, effectivement, sur la question de démocratie.
Ils sont représentés,
Mais attendez, ça ne vous a pas échappé qu'au référendum de 2005, les Français avaient voté contre. Donc il ne suffit pas de venir signer des résolutions et de faire adhérer des pays. Il faut qu'il y ait des référendums nationaux et que les États, les peuples, décide. Parce qu'aujourd'hui, en Europe, il y a une crise de la démocratie, il y a une crise dans des pays, et il y a des réformes, effectivement, qui sont mises en place. Deuxième des choses, il y a la question sur l'économie et le social. Je crois qu'il faut une uniformisation sur la question sociale. Adhérer l'Ukraine avec un SMIC à 90 dollars, je veux dire, aujourd'hui, c'est incomparable. C'est une tâche. Avec les Allemands et, effectivement, la France. Donc, il y a aussi la question sociale et économique. Voilà. Et sur la question, enfin, pour terminer, sur la question militaire.
Militaire.
Je crois aujourd'hui que l'OTAN, quel est le rôle de l'OTAN ? Quel est le rôle aujourd'hui de l'armée française ? On sait bien qu'on a un parapluie militaire avec la bombe nucléaire. Et la coopération allemande. Aujourd'hui, on voit bien que ce sont les États-Unis qui ont principalement armé l'Ukraine. Et donc, on se pose des questions sur la question de l'avenir de la défense européenne. On nous parle de construction européenne et sur la défense. Mais aujourd'hui, il y a une défaillance sur la question européenne. Et on voit très bien qu'aujourd'hui, cette défaillance,
elle
se creuse de plus en plus avec ce conflit ukraino-russe.
Après la politique extérieure, justement.
Comment on fait pour nos banlieues ?
Bah, Boula, vous arrivez, vous prenez le micro
comme
ça, vous.
Comment on fait pour nos banlieues ?
Boula, ça va ? Allez, il y a Bilal qui vous attend, allez-y. Politique extérieure, après la politique extérieure, allez, politique intérieure, justement, pour ce fin de ces dernières lignes droites. Messieurs, tout de suite, Emmanuel Macron, qui se dit, alors, après, évidemment, certains échos, certains disent qu'il est fragilisé parce que, bon, il n'est pas assuré d'obtenir quand même la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Alors, quel peut être ce nouveau visage qui nous attend donc dimanche prochain ?
Ma crainte, Adil, c'est qu'on se retrouve comme en Italie,
Ménade.
Il y a quelques années, avec un Beppe Grillo qui devenait donc un parti qui représentait un parti d'extrême droite, qui devenait l'arbitre en fait sur une assemblée générale qui était trilobée. Et moi, c'est ma crainte qu'on en arrive finalement à une situation comparable avec une NUPES et des ensembles qui soient de taille très comparable, et qu'au milieu, on ait une minorité d'arbitrage qui viendrait finalement, voilà, faire l'arbitre sur les lois et venir modeler le paysage législatif de la prochaine législature.
Ça s'appelle la quatrième ?
La troisième, c'est peut-être très
troisième ou quatrième, non ?
Hein, quand on avait un président du Conseil qui était obligé
de faire
un compromis.
C'est pas la quatrième, non ? Quatrième, hein ?
Moi,
quatrième.
Je pense qu'il y a des négociations qui ont commencé déjà. On a écouté ce matin qu'on appelle ça Gérard Larcher qui veut être tout à fait droit chez les Républicains. D'autres personnes ont dit oui, pourquoi pas négocier. Opposition, je pense que les
utile.
Exactement.
Le terme,
je pense que sincèrement, il y a des négociations qui sont en cours et on va voir. L'avenir nous le dira. On souhaitera que quand même En Marche essaye d'avoir le plus de possible, même si je suis pas En Marche. Mais sachant que c'est toujours important que le président ait une majorité.
Oui, ben je crois qu'il l'aura pas là. Ou relative.
On verra. Je pense que ça va être relatif.
Relative.
Alors, souvenez-vous, pendant la campagne présidentielle, on a dit que Mélenchon n'était pas quelqu'un de républicain, mais pendant la campagne présidentielle, tout d'un coup, Monsieur Jean-Luc Mélenchon est devenu républicain. On avait appelé à voter contre l'extrême droite. Jean-Luc Mélenchon était le grand républicain, le grand sage. Il fallait s'unir ensemble contre, effectivement, l'extrême droite. Et tout à coup, maintenant, tout bêtement, Jean-Luc Mélenchon est devenu le diable, celui à abattre, celui qui est sorti du camp de la République. Et donc, ça pose effectivement le retournement de veste.
De
ce président de la République qui, en réalité, n'a pas de squelette idéologique. Malheureusement, ça sera une défaite pour la majorité présidentielle.
Je reviens tout de suite. Je veux juste qu'on ne se mette pas en retard, s'il vous plaît. Le Quoi de Neuf, exceptionnellement à 19h50 avec Pascal Boniface.
Les informés, le Quoi de Neuf.
Bonjour Pascal Boniface, le patron de l'ERIS. Bonjour mon cher Pascal.
Bonjour Adil, pardon pour le retard.
Non, c'est nous, il n'y a aucun souci. Je vous donne la parole puisque vous avez décidé de consacrer votre billet à la géopolitique internationale, notamment précisément le déplacement du président Macron.
Alors oui, il y a eu un déplacement non seulement du président Macron, mais également du président du Conseil italien Mario Draghi, du chancelier allemand Olaf Scholz, et accompagné par la suite, il les a rejoints, du premier ministre, du président roumain. Le tout pour aller voir le président Zelensky, pour assurer les pays européens de leur soutien à l'Ukraine. On sait que l'Ukraine se plaint de n'être pas suffisamment soutenue. Donc, les trois chefs d'État et de gouvernement, depuis quatre, ont allé délivrer un message et ils ont accepté que l'Ukraine soit candidate à l'Union européenne. Procédure express, les Ukrainiens ont déposé leur candidature fin février et elle va être très probablement acceptée au sommet européen. Là où, en fait, il y a peut-être un peu d'hypocrisie. On est dans l'émotion. L'Ukraine est un pays qui est agressé. Il faut montrer une solidarité. Mais il y a loin entre la candidature et l'acceptation du dossier. Il peut se passer des années parce qu'en fait, l'Ukraine n'est prête en rien à rentrer dans l'Union européenne. Elle n'est pas prête économiquement, elle n'est pas prête politiquement, en dehors même de l'état de guerre. Avant même la guerre, elle n'a aucun des critères des pays européens, elle est bien loin économiquement. Il y a des problèmes de gestion, de corruption qui sont gigantesques. Mais là, voilà, par rapport à l'émotion et la solidarité qu'on doit afficher, on a décidé de mettre tout ça sous le tapis et de dire, écoutez, vous êtes candidat, et puis eh ben, ça va prendre du temps, et je pense que ça va, par la suite, créer des frustrations. On met un petit peu la poussière sous le tapis.
Bravo, bravo, j'ai beaucoup aimé justement ce regard géopolitique, comme toujours d'ailleurs, hein, mon cher Pascal Boniface, qu'on retrouve jeudi prochain avec autant de plaisir. Merci à vous.
Avec grand plaisir de ma part. Merci Adil.
Bon courage, bonne soirée. 19h51, on arrive au terme de cette émission. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je vous ai interrompu. Vous parliez de. Alors, il s'est embarqué dans un discours.
Oui,
c'est le diable, c'est ceci.
Absolument pas. Je disais que la majorité présidentielle, pendant le premier tour, avait dit que Jean-Luc Mélenchon c'était quelqu'un de républicain, etc., et a retourné sa veste soudainement pour des raisons électorales et des raisons hypocrites.
Et je sais que Rafik voulait réagir. Allez-y Rafik. Vous voulez clasher, voilà. On fait des missions. Vous n'avez pas pu le faire avant, non? Vous n'avez pas pu le faire avant? Vous êtes marrant quand même, jeune débatteur. Allez-y, allez-y.
Il nous faut plus de temps.
Ben oui, il clash en fin d'émission. Il fallait faire ça tout à l'heure. Allez-y Rafik.
Je dis juste que Jean-Luc Mélenchon, il a des projets de taxation qui sont assez importantes, et ça c'est dangereux pour l'ensemble de la population.
Et
un de ses projets, c'est de remettre en cause le soutien à l'Ukraine, qui est quand même un pays
donc
qui est agressé.
Donc vous pensez que c'est dangereux de taxer les GAFA.
Et qu'il y a aussi des rapports
de taxer
avec
les entreprises qui polluent.
Donc le fait qu'il y ait un projet assez dangereux pour l'économie, moi je pense que quand même.
Mais pour quelle économie?
Allez, Ménade, rapidement, on a 30 secondes, vite.
On parle de Jean-Luc Mélenchon et de la NUPES comme si c'était lui le seul géant de la NUPES. Je crois que c'était à quelque chose de collégial. Donc ça en dit aussi long peut-être sur le projet de la NUPES qui, je crois que dès lundi, commencera à mon avis à se dissoudre dans les...
Exact. Est-ce que vous voyez déjà le plaisir, messieurs? Merci à Rafik.
Merci.
Tamgari, l'élu d'Orwell, ma maison. Merci à l'ancien élu de Rosny-sur-Bois. Ménade Ouchenir, merci à vous. Et enfin, à notre éditorialiste.
Les effets de la canicule aujourd'hui.
Merci Amid.
Ça, c'est justement la planification écologique qui va résorber cette crise.
Exactement. À la réalisation, c'était Yanis. Bilal Lenman prend le contrôle 20h-21h avec son Time Sport. Quant à nous, à demain, avec autant de plaisir. Demain, il fait chaud, hein, les amis. Hein. Sortez avec des bouteilles d'eau, avec des. C'est pas des bouteilles là, c'est des.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.